franceinter.fr.
Léa Salamé, votre invitée ce matin. Elisabeth Guigou, députée socialiste de Seine-Saint-Denis et présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée.
Bonjour Elisabeth Guigou.
Bonjour.
Cette nuit à Washington, Barack Obama s'est exprimé lors d'un sommet sur le terrorisme et il a déclaré « Non, l'Amérique n'est pas en guerre avec l'islam », mais il a aussi appelé pour la première fois officiellement les responsables musulmans à prendre davantage leur distance. Les responsables musulmans doivent en faire plus pour discréditer l'idée que nos pays auraient en tête de détruire l'islam. Un commentaire ?
Moi, je trouve que les responsables musulmans, ceux qui sont contre, et c'est la très grande majorité, le font. J'étais il y a 3 jours au Caire, j'ai rencontré le grand imam de la mosquée Al-Azhar, et je peux vous dire que lui, il ne mâche pas ses mots, et publiquement, et il a beaucoup de courage, parce qu'il y a des salafistes, évidemment, au Caire, à la mosquée Al-Azhar. Donc c'est un combat interne à l'islam, c'est sûr, parce qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire de l'extérieur de l'islam. Ça, c'est vrai. Et je pense qu'il faut aider ceux qui veulent porter ce débat. Parce que ce débat, vous savez, il remonte à très loin, il remonte à 2 siècles, finalement. Il y a eu un islam des Lumières. Au 18e, au 19e siècle. Ça s'est effondré, je trouve, voyez-vous, qu'on ne parle pas justement assez de ceux qui, dans l'islam, s'interrogent sur les raisons pour lesquelles on en est arrivé là. Par exemple, Ismail Serraj el-Din, le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, qui publie énormément de choses là-dessus. Il faut leur donner la parole.
Alors, vous étiez au Caire, et manifestement à Alexandrie également, à quelques kilomètres de là, il y a la Libye. La Libye qui est au bord du chaos, les milices contrôle la capitale Tripoli. Daesh, l'État islamique, s'implante chaque jour un peu plus. On l'a vu dimanche dernier avec la décapitation de 21 coptes. Question simple, est-ce qu'il faut une nouvelle guerre en Libye ?
Alors la situation est gravissime. Voilà. Parce que jusqu'à très récemment, jusqu'à ces derniers jours, il y avait déjà le chaos au sud de la Libye. On était très très inquiets depuis des mois de toutes ces, dans cette région de tribus où les frontières n'existent pas, d'avoir ces trafics qui allaient dans tout le Sahel, jusqu'à la Mauritanie. Mais là, c'est nouveau. C'est-à-dire que d'abord, c'est Daesh, et plus seulement des tribus bédouines qui font des trafics, c'est Daesh, et c'est dans le nord de la Libye, sur la côte, à Darna, à Sirte. Et à Darna, on a vu même Al-Qaïda se rallier à Daesh. Donc ça, c'est absolument terrible.
Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut une guerre ?
Alors, ce qui est nouveau,
le président égyptien que vous avez rencontré au Caire, le président égyptien Al-Sisi, demande une guerre, une intervention militaire sous le chapitre 7 à l'ONU.
Oui, alors, attendez, c'est pas... Donc il faut combattre Daesh, ça c'est absolument certain, mais il faut se donner des chances de gagner, d'abord, et puis que ce ne soit pas davantage de chaos ensuite, comme ça a été le cas avec la dernière intervention en Libye.
La dernière intervention en Libye menée par Nicolas Sarkozy, la coalition et les Anglais, que la gauche a soutenue.
Nous avons soutenu l'intervention, mais nous avons déploré immédiatement qu'il n'y ait pas de suivi politique.
Car
une intervention militaire, c'est jamais la solution en soi. Une intervention militaire, elle est faite pour faciliter une solution politique. Donc, il faut une solution politique. Le problème, c'est d'abord une solution politique. Il y a 2 gouvernements en Libye, un à Tripoli, un à Tobrouk, il y a 2 parlements. Donc, Bernardino Léon, l'envoyé du secrétaire général des Nations Unies, essaye de trouver un accord entre ces 2 parties. Il essaye... D'accord, mais en tout cas, ça avance. Il faut donner toutes ses chances à ce processus, parce que je ne vois pas où mènerait une intervention militaire occidentale de surcroît si nous n'avons pas un relais politique. En Irak, il y a un gouvernement qui a pris ses responsabilités, qui fait les combats sur le terrain, et puis il y a un appui de bombardement. Alors ce que demande, d'après ce que j'ai vu hier soir, ce que demande le ministre égyptien des Affaires étrangères, je l'ai vu aussi, c'est que maintenant on livre des armes. Ça mérite d'être considéré.
Est-ce que vous y êtes favorable ?
Mais là encore, ça dépend des progrès de la solution politique, parce que les armes, si on les livre, où vont-elles aller ? À qui ?
Le général Haftar, par exemple, est-ce qu'il faut lui livrer les armes ?
Ça, c'est fait partie de l'armée régulière.
Oui. Bon, est-ce qu'il faut le
Il faut des, et puis il faut que le général Haftar aussi accepte les ordres du pouvoir civil. Vous voyez, c'est pas simple parce que le général Haftar, on a quelquefois un peu l'impression qu'il voudrait jouer son jeu à lui.
Bien. Un mot sur la situation en Ukraine. Pendant le cessez-le-feu, la guerre continue. Les pro-russes y ont pris hier une enclave stratégique de Debaltseve. Est-ce que les accords de Minsk sont morts avant que d'exister ?
Non, je ne crois pas, mais c'est grave, parce que c'est une violation flagrante de l'accord de Minsk II. En même temps, je vais vous dire, c'est pas totalement une surprise, parce que Debaltseve, c'est une poche entre la région de Lugansk au nord et la région de Donetsk au sud. Les séparatistes n'ont jamais accepté. Alors, il ne faut pas se résigner, bien entendu. Mais ce qu'il faut, c'est vouloir l'application de cet accord. Il y a 13 points dans cet accord. Le retrait des armes lourdes a commencé.
Très lentement.
Oui, lentement, mais l'important, c'est d'enregistrer des progrès. Parce que de toute façon, il n'y a pas de solution alternative.
Vous faites confiance à Vladimir Poutine ?
Ce n'est pas une question de faire confiance ou pas, c'est de vérifier que les engagements qu'il a pris à Minsk, et c'est la première fois qu'il les prend personnellement, avec les trois autres, eh bien, soient appliqués sur le terrain. Donc il faut vérifier, voilà, on ne croit que ce qui est fait et pas ce qui est dit.
30 secondes, même pas. Un mot de politique intérieure, ça y est, les réformes, c'est fini, le quinquennat, on ne va plus pouvoir réformer, vous n'allez plus pouvoir réformer.
Bah, sûrement pas. D'abord, il fallait conclure, quoi. 200 heures de débat, 1000 amendements, il arrive un moment où ça va, oui ou non. Bon, ben voilà.
Et maintenant, on fait quoi ? Après le 49-3
non,
utilisé.
Non, mais après, de toute façon, vous avez vu que les frondeurs ne vont pas voter la motion de censure. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas contre le gouvernement. Donc tout ça va se calmer, je l'espère, car on était dans une échelle de perroquet. On va arrêter les surenchères et on va se dire, de toute façon, il n'y a pas de majorité alternative. Hein. Voilà. Alors on va arrêter les frais et la motion de censure ne sera pas votée. Le gouvernement continuera son excellent travail et cette loi sera appliquée. C'est une bonne loi.
Elisabeth Guigou était notre invitée ce matin. Belle journée à vous.
Merci Léa Salamé, bonnes vacances à vous
oui.
Et à dans 10 jours.